nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Canal Académie vous propose de revenir sur le Grand Prix d'architecture 2011 de l'Académie des Beaux-Arts, proclamé en décembre dernier, qui était justement consacré au logement étudiant. Vous allez découvrir quelles solutions ont proposé les jeunes architectes aux membres du jury. Retrouvons Claude Parent, membre et président du jury. Claude Parent est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2005 et au sein de l'Académie, avec ses confrères architectes, il accorde beaucoup de son temps à la finalisation du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Il s'agit chaque année de récompenser trois lauréats par un Grand Prix, un premier Grand Prix, un deuxième prix et un troisième prix. Le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts existe depuis 1975. Le sujet, l'an dernier, portait sur un habitat d'occupation transitoire. Quel habitat proposer en cas de catastrophe naturelle? Cette année, le jury a proposé aux lauréats de présenter un projet sur la délicate question du logement étudiant qui pose problème dans la mesure où la demande excède l'offre au point de poser un véritable problème social. Une question d'architecture contemporaine qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt des candidats. Claude Parent, bonjour.
Bonjour madame.
Claude Parent, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet cette année?
Quand j'ai pris ce prix en main avec mon regretté ami Folliasson, on se rendait compte que les sujets étaient encore trop généralistes et qu'ils s'occupaient plus des grands bâtiments d'importance, les bâtiments de l'État, des trucs comme ça. Ça manquait de quotidien là-dedans.
Comment les candidats ont-ils répondu de manière générale cette année? Vous avez reçu près de 66 dossiers, à peu près il y a 55 architectes qui sont tous âgés de moins de 35 ans, ça c'est conforme aux conditions du concours. Et puis il y avait également 15 dossiers présentés par des étudiants qui ont justement dû être particulièrement sensibles à la question posée.
Oui, pour des raisons bien connues, on est obligé d'avoir le plus de candidats possible et après de faire un premier choix des 20 qui nous intéressent pour qu'on puisse s'apesantir. Regarder des projets, c'est long, ça exige beaucoup de temps, beaucoup d'attention, qu'on puisse faire un bon jugement, un jugement qu'on puisse défendre. On peut dire qu'on a eu une petite déception, parce que ils n'ont répondu qu'à un point sur les trois qu'on n'avait pas analysé premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais qu'on avait indiqué par des phrases pour leur dire, vous pouvez par exemple choisir un terrain qui vous intéresse particulièrement, on vous laisse le choix du terrain, etc. On leur a dit aussi que ce qui était important, c'était ce qu'on appelle la chambre d'étudiants, c'est-à-dire le petit réduit dans lequel ils vont exercer, dormir et exercer leur travail et leur réflexion, etc. Et ils ont laissé tomber pratiquement deux critères sur trois. C'est très curieux. C'est pour ça qu'on a été déçus, non pas par leur réponse, qui était intéressante, mais par le fait qu'ils aient surtout parlé de la localisation. C'est curieux. Ils ont choisi les berges de la Seine, ou ils ont choisi les toits, comme nous verrons tout à l'heure.
Ça révèle peut-être un souci ou une préoccupation qui a pris le dessus sur la chambre ou l'espace étudiant, c'est-à-dire l'endroit où on doit vivre par rapport à l'endroit où on doit aller étudier. Et ça semble être devenu la préoccupation majeure, la perte de temps dans les transports. S'ils ont peut-être fait ça, c'est peut-être pour cette raison.
Vous avez raison. Au fond, on n'aurait pas dû leur en vouloir. On leur a voulu parce que c'était donner du mal pour rien et que c'était au détriment de la forme architecturale, de la typologie. Mais en fait, le renvoi que nous a fait à nous jurés et à l'ensemble de la profession, tous ces étudiants qu'on avait mis en pleine liberté, on leur avait dit, pour une fois, on vous dit pas comment il faut le faire, on vous demande de dire comment vous le souhaitez. C'est la première fois. D'habitude, c'est l'éducation nationale ou un promoteur qui décide que vous allez vite comme ça en disant ils seront bien contents. Et là, non. On vous dit, dites-nous ce que vous souhaitez. Alors, tout ce qu'on a reçu, c'est que vous nous dites d'abord, en premier et en groupe, et à l'unanimité, on veut être en ville. Pas un n'a parlé de campus. Ah, j'ai dit, ça devrait nous faire réfléchir quand même. C'est comme un petit référendum où tout d'un coup, le type dit, mais moi, je veux vivre en ville. Moi, je veux vivre en ville. N'importe où en ville, puisque, et je vous dis, comme on le verra tout à l'heure, il y en a qui ont choisi les toits de Paris, il y en a qui ont choisi les berges de la Seine, il y en a qui ont choisi des ronds-points.
Est-ce que c'est parce que le campus en France n'est pas très développé, le campus universitaire, mais vous avez reçu aussi des dossiers qui venaient de l'Europe entière, mais quand, c'est ce qui est ressorti.
Quand on connaît les campus à l'anglo-saxonne, on voit bien que nos campus à nous, ils n'ont rien à voir.
Cette année, deux prix ex-aequo ont été donc récompensés, Florian Dorme et puis Simon Moisière. On va peut-être commencer par le projet de Florian Dorme qui part de l'existant et du parc immobilier inexploité. Ça a été sa démarche.
Il faut dire qu'on a été un peu dur puisqu'on les a mis, au lieu de mettre un premier prix, on a mis deux seconds prix. Il a dit, y a des toits qui ne servent à rien. Et il y a beaucoup de moments où les architectes, quand on les interrogeait sur le Paris, des gens que j'ai connus, des architectes que j'ai connus, qui voulaient utiliser les toitures parisiennes et qui voulaient même les réunir par une espèce de pont,
de passerelle,
pour que tout d'un coup, les toitures de Paris, je ne sais pas si c'était, je ne me souviens plus de l'architecte qui avait inventé ça, pour qu'on ait un Paris sur terrasse, par exemple. Avec communication, etc. Donc, vous voyez, c'est une idée qui est bien dans l'architecte. Pourquoi gaspiller ce toit-terrasse des immeubles qui est, comme le disait le jeune ce matin quand il a présenté son projet, l'endroit le plus beau dans une ville pour avoir le spectacle de la ville et pour avoir l'horizon en même temps. Tout d'un coup. Donc, il a bien fait ça. Alors, ce qui est intelligent chez lui, pour dire pourquoi on l'a accepté et on lui a donné un des deux second prix en question, c'est que il s'est bien rendu compte qu'il y avait eu un objectif impossible à atteindre si les gens de l'immeuble n'étaient pas d'accord. Donc il a sélectionné dans Paris, et il paraît qu'il fait un premier prototype, lui, les propriétaires d'un immeuble. C'est-à-dire, il a cherché des immeubles dont un seul monsieur est propriétaire et non pas une copropriété et non pas un immeuble de promoteur. Non, un immeuble, et il paraît qu'il y en a beaucoup.
Et que ça donne 14 000 chambres d'étudiants possibles.
Oui.
Donc effectivement, on peut se pencher sur cette question.
Donc c'est
cette
une bonne
question.
Idée.
Ouais.
Bon, alors maintenant reste à savoir. Alors il a trouvé un cobaye, c'est formidable, il paraît qu'il en fait un. Alors au fond, quand on voit ces dessins, qui sont très ambitieux, très marrants, c'est comme s'ils construisaient un petit village champêtre, même, avec des arbres, sur la toiture terrasse d'un immeuble, et ça n'a rien à voir avec l'immeuble. C'est autre chose. C'est un élément étranger, habitable pour des étudiants, et c'est réputé être pour les étudiants. Il ne s'agit pas de mélanger.
C'est un espace supplémentaire, comme une deuxième paroi, une deuxième peau sur le dessus.
Donc, c'est envisageable.
Alors, deuxième prix ex-aequo, le projet de Simon Moisière, qui est parti d'une problématique tout à fait différente. Au lieu de partir d'immeubles existants, il est parti d'espaces inexploités existants, à savoir des trous, en prenant en exemple les trous laissés par les échangeurs d'autoroutes autour du campus de Saclay. Ça fait beaucoup d'espace inexploité et c'est de là qu'il est parti.
Alors là, c'était quelque chose qui était très intéressant pour moi parce qu'on voyait une architecture avec une typologie très particulière, une densité de raccordement des chambres d'étudiants, une création grâce aux formes très dirigées vers l'extérieur et vers l'intérieur par des sortes d'antennes comme ça, une possibilité de trouver des espaces au lieu de rues et de couloirs intérieurs, des espaces qui étaient des espaces assez dilatés, assez chahutés, qui permettait non pas d'aller dans son petit couloir pour gagner sa chambre, mais de parcourir un espace qui avait une réalité. Ça, c'est très beau. De l'extérieur, ça se présente évidemment d'une façon très vigoureuse, comme une tour, mais une tour qui a des antennes dirigées vers le pourtour.
Vers l'extérieur.
Vers l'extérieur, qui fait que les vues des fenêtres depuis l'extérieur vers l'intérieur ou vice-versa vers le paysage sont agrémentées. Ce ne sont pas des, comme dans nos immeubles, des fenêtres côte à côte sans fin. Il y a une recherche de forme et de vécu là-dedans très intéressant.
Le troisième prix a été attribué à Emmanuel Manger, qui part, lui, de l'idée de créer un bâtiment, alors vraiment dans la cité existante, mais un bâtiment qui affirmerait une identité particulière, qui pourrait être reconnaissable comme un bâtiment pour les étudiants. Alors, où est la nouveauté? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, c'est vrai qu'il a une architecture particulière. Ça s'est vu tout de suite parce que il a montré d'abord les rampes. Donc, il croyait avoir mon acquiescement immédiat, puisqu'il utilise des rampes de circulation qui sont montrées dans une des façades.
C'est une façade.
C'est une façade avec des rampes de circulation. Mais ça allait plus loin que ça. Il faut voir la coupe qui était extrêmement complexe que vous voyez là, où on s'aperçoit que il n'y a pas simplement une distribution par escalier ou par ascenseur ou voire par rampe, et pour arriver toujours au même niveau. On n'arrive pas au même niveau. Il y a une complexité de répartition des étages qui fait que suivant qu'on prend une distribution ou l'autre, une rampe ou un escalier ou un autre moyen, on n'arrive pas au même étage. Autrement dit, la séparation par étage, comme tous les immeubles traditionnels, même ceux qu'on a vus, qu'on vient de voir, est changé.
Ce projet a surtout mis l'accent sur le développement possible des relations entre les habitants.
Je crois qu'il y a une façon de vivre différente qui est proposée par l'architecture.
Par le biais de la distribution, là.
Par le biais de la distribution. Alors, on lui a donné le troisième prix.
Donc, il y a un autre projet de Hugo Badia-Berger, qui est né en 1987 et qui a donc joué sur cette idée, non pas de confort, mais du manque d'espace qui caractérise justement tout logement étudiant.
Mais lui, il a fait le contraire de ce qu'ont fait les autres. C'est presque un projet qui est vraiment excessif, un projet de provocation. Il a dit, bon, les chambres des étudiants, on sait ce que c'est, tout le monde dit que ce sont des petits rectangles dans lesquels on va mettre trois livres, un bureau, un lit, etc. Donc, moi, je vais l'appeler la malle. Voyez? La malle. Et il a fait comme un catalogue, complètement débité avec comment il fait la malle, qu'est-ce qu'il y a dans la malle. Et quand on ouvre la malle, il y a un sol, un toit, et puis quatre parois qu'on rabat et dans lesquelles on développe le lit, la bibliothèque, la douche, le petit bureau, etc., etc. Voilà. Donc, au fond, vous arrivez avec vos 10 ou 20 ou 40 ou 50 ou 100 malles, vous les ouvrez et vous les répartissez un petit peu comme vous voulez, suivant le terrain qu'on vous a attribué. C'est une espèce de... C'est comme si on essaimait sur un terrain dont on fait des relations après, les relations de chemin pour aller de l'un à l'autre après. Et c'était, au fond, il a eu sa mention parce qu'il s'était placé dans ce que les autres avaient tous oublié, c'est-à-dire donner un caractère propre au logement d'étudiants. Alors, il l'a provoqué en le faisant le plus petit possible, il l'a provoqué en le faisant le plus économique possible devant les besoins, c'est quand même une réponse. Et il a provoqué aussi le jury en le faisant d'une façon de transport évident, puisqu'au fond, ce sont des valises. D'où son nom de malle, qui est quand même volontaire et pas dit n'importe comment. Ce sont des gens, vous voyez, ces prix-là, peut-être qu'on a été trop sévère avec eux, mais on était déçus parce que Moi, j'avais pensé à leur demander le où, le quoi et le comment, et ils ont tous fait du où. Ils ont tous fait de la localisation. Donc, on était un peu frustrés. Et on leur a voulu parce que ils dépassaient pas le rectangle. Ils l'indiquaient à peine, le rectangle.
C'était une structure
très économique
et très
agressive, si on peut dire, mais qui quand même répondait au nombre et au manque d'argent et au manque de terrain. Quand même, si on l'avait jugé sainement là-dessus, mais évidemment, on a dit quand même la malle.
Le dernier projet qui a remporté mention de la part du jury, c'est le projet d'Alexandre Ciano, qui a conçu un estudianstère inspiré des phalanstères. C'est un projet qui est très très différent. Qu'est-ce qui vous a frappé dans la présentation de ce projet? Là aussi, circulaire, une tour?
Moi, je disais qu'au début, au premier tour, quand on est passé, on trouvait que c'était intéressant parce que c'était comme la... Il l'a présenté comme une récupération, si je me souviens bien. Comme une récupération de certains bâtiments qui existent, comme les anciens forts, les anciens rassemblements d'individus faits pour une raison ou une autre. Et il l'a proposé comme une enveloppe. Et se servant de cette enveloppe, il y développait une vie d'étudiant avec à l'intérieur, dans l'espace intérieur de cet anneau là qu'on voit sur les photos, sur ces dessins, un espace intérieur qui était un espace de communication important, etc.
De détente, de
un
café.
Peu le type couvent, comme s'il faisait un couvent ou comme s'il faisait un château fort et qu'il utilise l'intérieur du donjon, du château fort, etc.
Claude Parent, ces projets qui ont répondu quand même à des problèmes très concrets, qui sont partis d'espaces existants, est-ce qu'ils manquent dans l'ensemble d'utopie?
C'est un peu ce qu'on leur reproche. On pensait qu'ils allaient beaucoup rêver, on pensait qu'ils allaient beaucoup imaginer, qu'on allait trouver des solutions neuves, vraiment neuves, sorties de leur désir intime sur une façon d'habiter. On comptait beaucoup sur des dessins, par exemple, de ce qu'on appelle la chambre d'étudiants. Moi, je m'étais posé les questions, veulent-ils les regrouper avec une salle commune, avec 7 ou 8 chambres, et une salle commune dans laquelle ils pourraient travailler ensemble, ou faire des études, faire de la lecture, se parler, discuter de certains projets. Justement, s'ils ne faisaient pas les mêmes études, qu'il y ait une osmose des préoccupations de chacun. Enfin, ce qu'on attend dans la vie d'étudiant, c'est le frotti-frotta qui leur permet même de changer, tout d'un coup, au contact de leurs camarades, de changer leur orientation d'études. Ça se fait beaucoup, énormément, beaucoup plus souvent qu'on le dit.
L'architecture, pour vous, peut être une réponse à ça, c'est-à-dire
mais
peut
oui.
aider
mais oui,
à
ça
cette...
Peut aider. Or, ils n'ont jamais manifesté, par exemple,
cette nourriture intellectuelle.
Un truc de colocation. Ils n'ont jamais manifesté que autour d'une dizaine de chambres d'étudiants, il y ait un petit foyer, un espace disponible, ne serait-ce que pour faire une fête anniversaire de l'un d'eux, etc. Ça se serait peut-être fait sur les toits. Il y avait aussi une idée qui était très intéressante, qui était de prendre les berges de la Seine, mais la répétition du modèle que l'architecte, qui était une jeune femme, avait fait, du modèle qu'elle avait choisi, était tellement simpliste, tellement ordinaire, on peut dire, par rapport aux maisons qu'on voit partout, que c'était dommage. Alors j'aime mieux qu'ils fassent un village de péniches et qu'ils habitent dans les péniches. On peut très bien faire des foyers d'étudiants dans une énorme péniche. On peut très bien avoir des chambres d'étudiants dans une péniche. Non, elle reconstruisait des petits blocs genre HLM, donc c'était pas possible. Donc ça a manqué quand même. C'est pour ça, on a été méchants. On n'a pas été gentils. On n'a pas été gentils pour l'ensemble. Ça a manqué du rêve que nous attendions. Alors pourquoi? Pourquoi on les empêche de rêver? Alors, est-ce que la société est à ce point fermée que maintenant, à 18 ans, 20 ans, 22 ans, vous n'avez plus le droit de rêver? Vous devez vous couler dans le réel? Ah non, non, moi j'attends pas ça. Quand on est dans les études, on n'attend pas ça. On attend un développement que peut-être la société dans laquelle vous rentrerez avec des us et coutumes et des nécessités de répondre au travail qu'on vous demande ne vous permettra pas, mais une fois qu'on leur permet, qu'on leur dit, pourquoi ils se lâchent pas? C'est là qu'on a été gênés.
Dernière chose, vous aviez créé la Maison de l'Iran, vous l'avez conçue, elle a été construite sur le campus de la Cité universitaire internationale à Paris. Est-ce que ce campus, qui a été construit au début du XXe siècle, finalement, apporte encore du rêve, ne serait-ce qu'en s'y promenant, et c'est un endroit fantastique? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres cités universitaires, d'autres campus à cette qui appellent le rêve rien qu'en regardant les différentes façades? Vous, vous y aviez construit la Maison de l'Iran, qui était un bâtiment suspendu. C'était une merveille architecturale. Mais comme la plupart de ces bâtiments appellent encore aujourd'hui, ou invitent, disons, à la rêverie, au moins au voyage, d'ailleurs, la rencontre internationale.
Ouais, d'ailleurs, je suis très au courant parce qu'ils sont en train, il y a une fille qui s'appelle Dejean qui a reçu mission avec des jeunes architectes que je connais et que je suis content d'avoir qu'on ait mis là. Ils sont en train, dans mon propre bâtiment, d'utiliser les deux parties à rez-de-chaussée qui sont d'énormes carrés vide de tout poteau, ils sont en train de faire une exposition justement sur les projets de la cité universitaire avec maquettes, plans, en datant chaque bâtiment. Alors, ce qu'on peut dire pour répondre à votre question, on peut dire premièrement que nous n'avons plus les moyens en terrain, en gaspillage de terrain, si on peut dire, et en argent, de faire des campus comme ça dans Paris. Vous rendez compte les privilégiés qui représentent, vous avez visité les espaces verts qu'il y a là-dedans, ils ont un théâtre, ils ont un restaurant, ils ont des tennis, ils ont des trucs pour faire de la course à pied, ils ont le métro en face et maintenant en plus le tramway. Donc je me demande chaque fois quels sont les privilégiés qui vont là, parce que tous ceux qui y ont été, comme l'ex-reine d'Iran, Farah Diba, qui a été au pavillon du Duc, le pavillon néerlandais, s'en souvient encore et fait de temps en temps une visite amoureuse à son bâtiment. Il n'y a pas très longtemps, il paraît qu'elle est revenue. Bon, il y a eu les grands bâtiments clés de Le Corbusier, le pavillon suisse, il y a eu le mien, qui est considéré comme un bâtiment clé. Il y en a eu d'autres aussi, moins tapageurs, mais intéressant quand même, et intéressant historiquement. Parce que quand on regarde le début de la cité universitaire, qui était une fondation, je crois,
de la fondation de
la Meurthe, on voit les premiers bâtiments, il y en a un qui est dû aux provinces françaises, qui n'a rien de tapageur. Après, on voit le bâtiment anglais, qui est vraiment tout à fait passéiste, etc. Donc, c'est marrant parce que ça a évolué, ce truc-là. Au début, c'était, comme je disais un jour méchamment, c'est comme les comices agricoles où chacun arrive avec son champion et son plus beau bœuf et puis le met sur la place publique. C'était comme ça. Le pays voulait montrer son savoir-faire. Bon. Ah, maintenant, c'est légèrement différent. On cherche à ce que les bâtiments aient une vie propre et on aménage de plus en plus pour qu'il y ait une vie universitaire à l'intérieur du marché. Ils font des expositions, ils font des colloques, etc., dans la mesure de leurs moyens. C'est donc un lieu à vivre. Mais il faut pas oublier qu'il y en a une qui a été faite à Antony pour suppléer au manque de place et qui, elle, n'est pas mal, mais elle est très loin et elle ne fait pas partie de cette ville à laquelle tout le monde... Une ville universitaire, ça existe encore, vous savez. Lyon, c'est une ville qui est très universitaire. Aix-en-Provence, c'est une ville universitaire. Toulouse, c'est la reine des villes universitaires. J'y habitais 4 ans, je le connais bien. Elle continue de vivre avec ses étudiants, Aix-en-Provence, qui ont droit de cité, qui peuvent aller dans les bistrots, qui peuvent se mettre à 10 et ne prendre qu'un café. Les étudiants sont partie prenante de la ville, ils sont intégrés par les habitants. Ça ne les gêne pas. C'est pas toujours comme ça.
Quand on voit
à Toulouse ce qu'ils ont fait au Mirail, quand ils ont développé là-bas l'école d'architecture, je suis allé y faire une conférence. Quand on sort aux 10h du soir, il y a des maîtres chiens hein, avec les chiens qui vous accompagnent à votre voiture. Vous comprenez que les étudiants ne doivent pas être à l'aise dans des histoires comme ça. On ne peut pas.
D'où leur réponse, d'être dans la ville, dans les projets qu'ils vous ont présentés. Merci Claude Parent.
Le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts se déroule chaque année. Les architectes de moins de 35 ans peuvent concourir. Il se compose de 3 prix, un grand prix, un deuxième prix et un troisième prix. Et la thématique proposée aux étudiants est renouvelée chaque année.